Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour ce nouveau podcast incroyable, un podcast où tout le monde est prêt, où certains boivent de l'alcool ou d'autres rigolent, mais essentiellement pour parler de jeux vidéo bien évidemment. Alors aujourd'hui, une nouvelle thématique comme d'habitude, et aujourd'hui on va parler de ISS Pro Evolution, Winning Eleven, ISS Deluxe, PES, enfin en tout cas vous l'avez compris, de ce qui est devenu aujourd'hui la simulation référence de football. Et pour ça, j'ai eu quelques experts en la matière, comme Angel. Angel.
Salut, je suis un expert.
Ça va bien, j'aime quand ta cabesse gonfle légèrement.
Ça va, en plus, comme c'est du foot, je bois une bière.
Nickel.
Ça va de pair.
Nickel, il y a aussi Traz qui est avec nous.
Bonjour, bonjour.
Et Traz, ça fait plaisir, hein, parce que ça fait quelques temps que tu nous avais délaissé sur les podcasts.
Bah, j'avais des DVD à rendre.
Super. Bon, il y a Julo aussi qui est présent, lui.
Mais
aussi,
oui,
avec sa petite bière.
Toujours, voilà, très bien.
Nickel. Et puis il y a Caf, un nouveau mordu de PES.
Non, mais j'expliquerai que la chance existe et tout.
Voilà, très bien. Bon, alors, on va resituer un petit peu la chose, puisque c'est compliqué finalement, hein, même si maintenant on a commencé à avoir l'habitude. À la base, c'est ISS, donc International Superstar Soccer, mais ce n'est pas le PS que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'en fait, il y avait, on va le rappeler, hein, pour les 3-4 au fond de la pièce qui ne s'en rappellent pas, deux équipes au sein de Konami. Il y a KCET, l'équipe de Tokyo, et KCEO, qui est l'équipe d'Osaka. Et à la base, en fait, le ISS, eh bien, c'est l'équipe d'Osaka, et ça a débuté sur Super Nintendo.
Attends, Osaka, parce que là, je vois Julo qui s'énerve.
Qui tique.
Il faut dire Osaka, c'est ça ?
Osaka. S'il vous plaît.
Excusez-moi.
Merci.
Voilà. Donc, vous vous rappelez un petit peu de ces premiers ISS sur Super Nintendo ?
Mais
c'était déjà un très bon jeu.
Mais oui, absolument.
Voilà, Julo. Donc dont on a usé les galettes à la rédac. Voilà, c'était
usé les galettes.
Voilà.
Non, on parle de la version Super Nintendo. T'es dans le thème. T'es vraiment dans le thème, Julo.
J'ai rien dit.
Ça y est, bon. Ça commence.
Attendez, Julo,
une bière. Il est fini.
Non, c'est surtout Traz. Toi, t'avais passé beaucoup d'heures sur ce jeu.
Oui, tout à fait.
Et tu avais bien aimé, me semble-t-il.
Pourquoi? Non, je rigole.
Je prends le relais, moi.
Attends, parce que le vrai expert, c'est Angel, en fait.
Alors donc, oui, j'ai joué sur Super Nintendo, et à l'époque, j'avais adoré. Mais juste parce que c'était super beau, parce que finalement, le gameplay, il me plaisait pas. Enfin, voilà, quoi. Mais je trouvais ça super beau.
À l'époque, il y avait quand même vraiment l'hégémonie de FIFA, d'Electronic Arts.
Ouais.
Qui dominait vraiment.
Que j'adorais, par contre, tu l'as dit.
Ah ouais, à l'époque, FIFA, c'était exceptionnel, quand même.
Bah, le FIFA Mega Drive, je crois que je l'ai retourné dans tous les sens.
Comment ça se passe? Parce qu'il y avait quand même il y avait pas mal de d'autres types de jeux qui étaient présents. Je me rappelle de Eric Cantona Football, qui était pas si mauvais que ça.
Mais pourquoi tu te rappelles de celui-là?
Bah parce que moi je l'avais kiffé. Moi,
sérieux?
Ouais, je l'avais plutôt kiffé. Il y avait alors Traz est mort de rire.
Moi, je pense que les deux plus grandes erreurs de Cantona, c'est les pubs par touche et d'avoir fait un jeu aussi pourri.
Mais non, il était pas si mal que ça. Non, mais parce que on peut pas se permettre de parler de ISS sans citer un petit peu aussi les autres titres de football qui ont marqué. Angel, toi, avant de goûter ISS, qu'est-ce qui te plaisait?
Comme tout le monde, je vais citer Kickoff et Sensible Soccer parce qu'il y avait un vrai toucher et que c'était une approche foot intelligente par rapport à j'ai un message. Et c'était une approche beaucoup plus fino de on, plus surtout par rapport aux limites technologiques qu'il y avait à l'époque. Et puis voilà, quoi. Alors après sur console, on a eu que du football champagne, on va dire.
Oui, mais enfin, à l'époque, en plus, je crois pas que les consoles pouvaient se permettre de faire vraiment de la simulation de très haut niveau.
Ouais, mais sur ordinateur non plus, et pourtant, on avait des trucs vachement pointus.
Kickoff et Sensible Soccer, c'était énorme.
Voilà, c'était vachement pointu.
C'était mes seuls jeux de foot à l'époque. Enfin, depuis les. Parce qu'il y avait des jeux de foot, rappelle-toi, tu sais, dans les années 80 avec les petits bâtons et les trucs. Bon, on va les oublier, ceux-là.
Ça, c'est du jeu de tennis plutôt,
non, ouais, c'est vrai, mais il y en avait un qui s'appelait foot, il y avait 11 bâtonnets. Enfin,
très bien.
Et du coup, le kickoff, c'était vraiment le jeu qui a fait. Il y a plein de gens qui sont achetés un ST à l'époque, un Amiga juste pour jouer à ça.
Alors, mon analyse du truc, CAF confirmera vu que c'est le pro. À l'époque, la frontière, la différence entre le PC et la console était vachement plus marquée. C'est vrai, les consoles, c'était vraiment Hollywood. c'était Hollywood, quoi.
C'est-à-dire, t'allumes
ta console, tu poses ton cerveau à côté et tu joues, quoi.
C'était les Golden Axe, c'était les grosses sprites, etc. On savait pas faire ça sur PC, j'allais dire. Sur Amiga, sur ordinateur 16-32 bits.
Sur PC, c'était beaucoup plus contemplatif, tu vois. T'avais toutes les civilisations et compagnie. Enfin, déjà, on dérive à mort, mais donc, enfin, c'est ce qui explique que les jeux de foot sur ordinateur était quand même plus on va dire plus intello on va dire voilà plus intello que les jeux de
foot sur console. Les jeux de Formule 1 étaient beaucoup plus intello sur ordinateur.
Pareil,
à l'époque
Vroom,
que sur
par exemple ouais. Voilà, je pense qu'il pourrait en parler.
C'était super
comme
austère mais c'était beaucoup plus pointu.
Voilà. J'ai comme l'impression qu'on dérive comme des vieux cons là.
Certes, mais c'est important de resituer les choses dans son contexte politique et économique.
Historique de l'époque.
Hein donc, bah, on va rattraper un petit peu le temps avancé. On arrive en 95. C'est la sortie du premier G-League Winning Eleven, donc exclusivement au Japon. Donc, c'est les premiers pas, en fait, du ESS sauce KCET. Donc, la première fois où on a eu un deuxième jeu de foot made in Konami. Il y en avait deux la même année, puisque ESS continuait aussi. Et c'est surtout en 97 que nous on a vu l'apparition de ISS Pro. Mais juste avant quand même, il y avait sur Nintendo 64, il y avait un autre ISS qui était vraiment excellent aussi. Franchement, vous vous en rappelez ?
Oui, mais celui-là c'était
KCEO.
KCEO.
Ouais. Ouais. Mais celui-là était vraiment bon.
Oui, il était bien.
À l'époque quand même, c'était une sorte de référence hein, pour l'époque. Traz.
Moi personnellement, j'aimais pas, mais.
T'aimais pas ?
Non.
Sur Nintendo 64.
Non, j'ai jamais aimé celui-là. Non. J'ai vraiment préféré la version de Winning Eleven japonaise.
Ah ouais.
C'est le tout premier que j'ai vraiment aimé des Winning Eleven.
Ouais, c'était vraiment le début, quoi. Le début de cette saga, là. Voilà, quoi.
Mais vous vous rappelez que pourtant, au début, outre le fait que graphiquement, c'était pas exceptionnel, il y avait quand même des gros défauts. C'est-à-dire, moi, je me rappelle, quand on courait, on était obligé de lâcher l'accélération, on va dire, pour pouvoir faire un angle. Sinon, il n'y avait pas 360 degrés de rotation. Ouais, mais c'était par angle droit.
C'était récurrent à tous les jeux de foot de l'époque, hein, un peu quand même. Mis à part justement Kick-Off et Sensible Soccer, parce qu'il y avait une sorte de conduite de balle qui était imposée.
Kick-Off est pas du tout d'accord.
Il y avait une sorte de conduite de balle qui était imposée.
Bah voilà, dans ce cas, la conduite de balle dans Kick-Off, c'était la balle. En fait, tu courais derrière la balle et t'essayais de faire en sorte qu'elle prenne un angle à un moment. Ouais. Mais c'était, tu pouvais te retourner, mais d'un coup, mais les angles, en fait, c'était 45 degrés. Hein.
Sinon, tous les autres jeux.
Sinon, tu perdais la balle. Direct.
Sinon, tous les autres jeux, d'ailleurs, c'est la grande différence, c'est que dans tous les autres jeux, la balle collait
au pied complètement, ouais.
À part, non, ici, il y a eu un ISS.
Mais Sensible Soccer, à l'époque, les vieux, c'était les seuls.
En tout cas, c'est la grosse différence, d'où justement les virages un peu. Enfin, c'était plus des virages, en fait.
Mais c'était pour ça, d'ailleurs, que FIFA cartonnait chez le grand public, parce qu'il était beaucoup plus simple.
Alors, à la base de toute la série des ISS et PES, on va dire, made in KCET, il y a un homme, hein, c'est Shingo Takatsuka, alias Cibas. Et c'est lui qui a essayé de façonner un petit peu le jeu pour vraiment changer la donne. Faire en sorte que ça devienne beaucoup plus de la simulation et que ça convainc vraiment au fur et à mesure le monde des fans de jeux de foot, parce que en fait la vraie rupture elle est vraiment arrivée en 97 avec l'arrivée des ISS Pro, où c'est là où on a commencé à voir le changement des joueurs qui partaient de FIFA, qui encore à l'époque, hein, c'était il y a quand même que 10 ans, restaient encore très attachés au football champagne de FIFA, pour arriver du côté de PES, de ISS à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi,
j'étais un grand joueur de FIFA. Et j'ai découvert ISS et c'est un peu comme si j'avais vu la Vierge.
Mais tu la vois souvent.
Et maintenant, c'est devenu un grand joueur d'ISS.
Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est ce qui me fait dire que, franchement, c'est quand même super courageux de la part de Konami et Cibas de dire bon, nous, on va sortir un jeu de foot. Pas un télo comme j'ai dit tout à l'heure, mais vachement plus technique, à l'heure où tout le monde offre un football champagne, ou même tous les jeux de sport en l'occurrence.
C'est hyper pointu, sont
branchés arcade, tu vois. Enfin, tu regardes Electronic Arts, enfin il y a pas vraiment de simulation, quoi. Les Gran Turismo, même dans les jeux de bagnole, les Gran Turismo et tout ça, ça existait même pas à l'époque. Mm-hmm. Et le mec, il sort de nulle part, il te sort un jeu qui se veut une simulation de football.
C'est bien de dire simulation, mais en quoi justement c'était de la
simulation?
Au niveau du gameplay.
Il y avait un vrai travail au niveau de la balle, les passes, c'était pas aussi automatisé que, enfin, rien n'était aussi automatisé pardon que dans un FIFA. Mm-hmm. Voilà. Et Traz veut dire un truc, j'ai l'impression qu'il me regarde.
Non, pas du tout, j'ai tout à fait d'accord avec
voilà, donc enfin, alors donc je reprends, il y avait rien d'automatisé comme tu le retrouves dans un FIFA. Les tirs partaient pas comme des boulets de canon.
On arrivait enfin à des jeux de foot où les scores étaient pas, c'est pas des scores fleuves.
Ça dépendait des fois, mais
merci. Non, merci, parce que justement en fait c'est ça, est-ce que les Américains ou les Canadiens comme on veut,
la branche FIFA est développée au Canada,
c'est ce qu'ils ont jamais compris en fait. Ils ont jamais compris que des mecs qui aiment vraiment le foot préfèrent jouer un match de foot où ça se terminera en 0-0 avec des grosses prises de gueule que des 15-14. et c'est ce qui s'est passé avec ISS, quoi. C'est-à-dire tu pouvais terminer à 0-0 mais t'avais pris un pied extraordinaire parce que tu t'étais fait chier à construire tes occasions de jeu.
C'est ça, construction du jeu, quoi.
Voilà, c'est-à-dire tes tirs pouvaient ne pas être cadrés, alors que dans FIFA franchement voilà, quoi.
Mais surtout il y avait une chose extraordinaire aussi, c'était les commentaires. En tout cas, on les a connus, nous, en japonais.
Ouais.
Ça, franchement, ça faisait 50% du jeu.
Et
on peut pas dire le contraire.
Ouais. Cacto
Alors non, mon côté Angel. Aussi, c'est la première fois qu'ils installaient des vrais stats dans les joueurs CR. Il y avait des vraies différences entre chaque joueur. Mmh. C'est Roberto Carlos allait vachement plus vite que la moyenne, mais tu vois, par contre, c'était un abo, donc le jeu de tête fallait pas compter dessus. Mmh. Et ses coups francs, c'était des coups francs de mule, etc., etc. Enfin, il y avait des vrais stats. T'étais vraiment obligé de construire ton jeu en fonction du joueur que tu dirigeais. C'est-à-dire, tu cherchais vraiment un joueur, tu vois, tu te disais, tiens, je vais changer d'aile parce que je sais que de l'autre côté, il y a tel mec.
Ça reproduisait, en fait, pour les vrais fans de football réel, on arrivait à reproduire un petit peu le jeu qu'on pouvait voir à la télé ou dans un stade.
Voilà. Et du coup,
connaissant les joueurs, on savait comment prendre l'équipe.
Voilà. Et du coup, tu passes un temps énorme à te construire une équipe. Ça te donne un côté coach. C'est-à-dire, c'était une sorte de football manager, enfin, de management light, parce que enfin on les a tous vus, enfin tous ceux qui ont fait un tournoi de d'ISS PES comme on veut l'appeler
maintenant.
Revenir
au niveau des tournois, parce que ça c'est, je crois, quelque chose qui a contribué.
On voit que les mecs passent plusieurs minutes à construire un jeu, une stratégie, enfin une vraie formation, à se prendre la tête avec un bon de touche, etc. Ça, on l'avait jamais vu avant.
Kev, tu voulais rebondir.
Mais c'est un truc, ça me fait marrer qu'il en parle, parce que c'est justement le truc pour. Parce que moi, je suis vraiment le noob. J'adore le jeu, mm-hmm. J'adore les sensations, etc. Mais je suis nul à ce jeu. Voilà, je vous le dis, je suis vraiment nul.
Tu veux dire, t'es une vraie burne ?
Ah oui, je suis une vraie burne. Mais j'assume complètement, mais je m'éclate. Mais alors, le truc qui est drôle, c'est que quand tu joues contre un Angel, contre plein de gens, contre un Plume, si tu nous écoutes, c'est déjà, tu attends une demi-heure le temps que le mec aille chercher sa sauvegarde pour charger son équipe avec sa putain de formation. Ça me prend 1000 ans. Et
ouais,
derrière, t'arrives.
Ça fait vraiment partie du trip.
Mais non, mais le truc qui est rigolo, c'est que moi, quand je joue, tu vois, j'arrive. Et déjà, effectivement, la difficulté pour un mec comme moi, c'est de réussir un changement d'aile. Mmh. Tu fais une passe transversale dans un FIFA, t'appuies, tu sélectionnes le mec, t'appuies sur un bouton, l'autre tire sur la balle, on continue. Là, c'est genre, ah ben non, il a raté, mais il est où mon joueur ? Mmh. Et la balle, et c'est exactement ce que tu vois à la télé quand tu mets un. Parce que moi, je suis pas un fan à la base, donc, mais quand je regarde un match, je fais, ah oui, non, ça arrive, les mecs vont vraiment rater la balle.
C'est un jeu sur lequel il faut vraiment investir du temps, s'entraîner.
Exactement.
On va dire virtuellement, ouais. Tout comme un joueur de foot.
Quand j'en avais marre de perdre, j'ai commencé à le faire, mais la courbe de progression, elle reste hyper complexe, quoi. Enfin, elle est hyper longue, je veux dire.
Et c'est intéressant que tu parles justement des stats, ce genre de choses, parce que moi j'avais une anecdote à ce sujet. Je me rappelle, j'avais fait une interview de Ronaldinho lorsqu'il jouait encore au Paris Saint-Germain. Et à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, Ronaldinho était sous sponsorariat Nike. Et le problème, c'est que FIFA est très proche de Nike, au niveau de la jaquette, au niveau de genre de choses. Du coup, pour l'interview, j'avais ramené les deux jeux. Bien évidemment, l'attaché de presse de Nike, par qui on passait, m'avait dit très clairement, fait comprendre, on jouera à FIFA. Bon, moi, néanmoins, quand Ronaldinho arrive, je lui montre les deux jeux. Il regarde même pas FIFA, il dit tout de suite ISS. Rappelons qu'à l'époque, il était sur la jaquette, la couverture de FIFA. Bon, moi, je me dis, on a quoi ? Une demi-heure avec lui, lançons le jeu vite. Je me suis limite fait engueuler. Mais mec, faut que je rentre dans les stats, que je refasse mon équipe, que je mette tel joueur avec tel joueur. En gros, un vrai professionnel du foot savait comment mettre sa stratégie, ce genre de choses, et ça compte dans ISS.
Et t'as le même phénomène avec Henry, qui lui aussi était dans la jaquette d'un FIFA, ouais. Je sais plus lequel, mais tout le monde sait très bien que c'est un super fan de PES.
Quelqu'un peut raconter justement un petit peu, parce que ça a été le transfert de l'année virtuel au niveau du foot, lorsque Thierry Henry est passé de FIFA, Electronic Arts, à PES.
À PES. Et
il y a une vraie explication derrière.
En fait, ce qui a aidé, c'est tout simple. Hein. Enfin,
l'argent.
À part le pognon, c'est tout simplement qu'en fait, à la base, il est super fan de PES.
C'est son amour.
Et que entre les deux, c'est simple. Hein. Enfin,
il y a
le côté cœur qui a parlé un petit peu. Une fidélité que finalement, l'actualité prouve qu'il n'a pas vraiment dans la réalité, vu son transfert foireux. Mais bon,
dis le par ça.
Non, mais justement, là, on parle d'argent Thierry Henry. Il a même revu son contrat. Il a touché beaucoup moins en royalties et même en contrat pur avec Konami, en tout cas dans les premières années lorsqu'il s'est engagé avec PES. Que ce qu'il ne touchait avec FIFA. Donc c'était vraiment un geste de cœur.
Si beau l'amour.
Non mais quelque part. Hein. Non mais franchement.
Non mais il y a plein de trucs comme ça justement. Enfin et quand il pense, enfin quand tu vois tout ce qu'il y a derrière le jeu, derrière PES, c'est pas si étonnant que qu'Henri réagit comme ça, parce que tu te rends compte que PES maintenant c'est au-delà du jeu. Enfin c'est vraiment aller au-delà
et
du
c'est
jeu.
Même tu vois les yeux dans les bleus.
Non mais
c'est vrai. Dans les yeux dans les bleus. 98 Coupe du Monde.
Non mais en 30 secondes vous venez de trouver 5 secondes
sont en train de jouer
ISS et donc qui est devenu PES. Exact. Ça a commencé par une bande de potes qui jouait devant une téloche et qui se marraient les week-ends. Après c'est devenu une communauté sur le net. Après c'est devenu une PES League.
Ça c'est très important.
Et maintenant c'est devenu un truc énorme. C'est-à-dire que maintenant quand il y a un PES qui sort, Konami c'est simple. Ils ont même plus besoin de faire la promo. Le truc le plus important dans la promo des PES, c'est de gérer tous les trucs extra. extra jeu, enfin extra.
Il y a même un tournoi de, on va dire, de vrais footeux qui s'organise chaque année aussi à PES. Et c'est pas vraiment pour des histoires de deal, mais c'est qu'ils sont proprement eux joueurs aussi. Il y a même l'histoire d'Alin Ozic quand même, qui a empêché deux de ses joueurs lorsqu'il était entraîneur de Rennes, parce qu'il jouait à PES. Une veille de match.
Ah, il voulait pas qu'il joue trop longtemps le soir.
Sinon, t'as Konami aussi qui sponsorise donc Sochaux et Toulouse. Mm-hmm. Et donc pour avoir été à Sochaux justement invité par Konami et voir un match. Non, mais parce que donc il y a des tournois qui sont organisés à Sochaux. Enfin, dans le stade, à chaque fois qu'il joue à domicile, il y a des tournois qui sont organisés là-bas. Donc on m'avait invité pour voir un peu comment ça se passait. Et c'est pas Konami qui va chercher tous ces sponsorings là, c'est directement les clubs de L1 qui appellent et qui disent bon ben voilà, nous ça nous intéresse parce que PES maintenant ça va au-delà de la console. Le nombre de personnes par exemple qui se sont achetées une PS2 juste pour jouer à PES, enfin on se rend pas compte, mais c'est phénoménal. Je pense que si le jour où une console maintenant que l'exclusivité est perdue, mais si Microsoft ou Sony récupère une exclue PES, c'est juste des millions de consoles.
Dans quel pays est-ce que la PS2 était appelée la PES machine par plein de gens justement? C'était un des produits
c'est phénoménal. Hein.
Qui était vraiment le système seller par excellence pour un jeu qui était le challenger, c'est pas mal.
C'est quand même, il y a un événement rare quand même. C'est-à-dire, c'est même unique. C'est la seule licence où finalement ils comptent pas sur le marché américain, ils s'en foutent et ça se vend quand même.
Ils s'en foutent
super bien. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que de toute façon ils savent très bien que c'est un marché
un
peu perdu.
Il a perdu la blague, personne visiblement.
Oui, enfin si, d'accord. Mais c'est un marché un peu.
Ok, je mettrai un.
C'est un marché perdu, donc ils s'en foutent. Voilà. Tu vois, c'est intéressant de voir qu'ils arrivent quand même à vendre des jeux par palette, par millions. En excluant complètement un marché.
Il sort quand même aux États-Unis. Voilà.
Hein, il est encore plus dur à arrêter de parler
que Julo de chez nous. Quasiment pas, quoi.
Il y a un signe très fort au niveau marketing, c'est que généralement quand on fait un pack avec une console, c'est vraiment les jeux stars, les jeux on sait pertinemment qu'ils vont attirer les foules. Il y a eu des packs avec Metal Gear, il y a eu des packs avec Gears of War sur Xbox, et il y a des packs à chaque fois avec PES. On met pas un pack avec un jeu où on se dit bon, on va le lancer ou quoi que ce soit. C'est devenu effectivement, CAF a complètement raison, un vendeur de machines. Alors justement, j'aimerais qu'on
Xbox 360 aussi,
bien sûr. Ouais. Et j'aimerais bien justement qu'on
vienne.
C'était
moi qui le disais, que c'était un jeu vendeur de machines.
Je ne faisais que corroborer.
Moi j'avais dit système seller, voilà, correct.
Et je parle plus anglais que français, donc bon. Et justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce glissement qui est en train de s'opérer, parce que maintenant ça devient de moins en moins, enfin c'est même plus du tout une exclusivité. Est-ce que ça va pas avoir aussi un petit peu un impact, par exemple, Sony, est-ce qu'il aurait pas flippé un petit peu justement d'avoir perdu ce PES?
Alors moi, en tant que joueur, attention, il y a deux discours, il y a le discours du joueur et le discours marketing.
Angel.
Donc en tant que joueur, de toute façon, je ne jouerai que sur PlayStation.
Alors là, voilà, faut que tu m'expliques pourquoi.
Mais attention, pas parce que je suis un Sony fan ou un truc comme ça, c'est parce que de toute façon, le gameplay des PES a toujours été pensé pour la manette PlayStation.
Je suis entièrement d'accord avec Angel aussi.
Voilà, tout à fait. Oui.
Pour avoir joué à la version Xbox 360,
donc,
comme nous tous.
Donc après,
franchement,
après,
c'est le jour et la nuit, quoi. C'est vraiment. Enfin, ils y sont pas arrivés, quoi. Vraiment, ouais. Je sais pas s'ils ont pas eu beaucoup de temps pour le faire, mais en tout cas, ça n'a rien à voir.
Et en plus, le jeu a été amputé sur Xbox de plein de trucs, quoi.
Oui, enfin, la première version qui est sortie sur 360, on sait que c'est une version qui a été rushée. Il faudra attendre le prochain pour voir.
Voilà, mais même pour la prochaine version, donc je pense que j'y jouerai sur PS3 parce que juste
c'est
à cause de la manette.
C'est
juste la manette, le placement des boutons qui. Enfin, c'est comme Metal Gear, je sais pas si on en parlera bientôt ou pas, mais voilà.
Oui, je te confirme.
Mais Metal Gear, alors attends, est-ce que c'est un truc Konami, mais ce sont des jeux qui sont pensés pour la machine, non seulement pour la machine, pour l'architecture de la machine, mais aussi pour le paddle. Et tout tourne autour de ça.
Pour une raison simple, c'est que quelque part, il y a plus de boutons utiles, on va dire, sur un DualShock que sur une manette de Xbox 360. Ils sont mieux placés, quelque part. Le fait qu'il y ait les deux courses juste situées l'un sous l'autre, ce genre de choses.
Ouais, mais parce que ça a été comme
ça
a été pensé comme ça de base, et finalement, tout le monde s'y est habitué. C'est difficile, et on change pas les gens, finalement.
Bon, les gâchettes de l'Xbox 360, ils ont été faits pour la FPS, et c'est clair que pour PES, derrière, c'est moins agréable, quoi.
Beaucoup moins agréable.
Mais bon.
Non,
bon,
je verrai la prochaine version, mais.
Bah justement.
J'ai fait le discours du joueur. J'ai fait le discours du joueur, oui. Mais maintenant, le discours marketing fait que c'est très intéressant pour Konami de sortir un jeu sur toutes les plateformes, parce que tu brasses beaucoup plus de public, hein, il y a plus de clients potentiels.
L'argent.
Plus tu vends, mieux c'est. C'est la monnaie qui domine le monde, c'est la monnaie qui domine la terre.
Oh, il est tellement content de sa phrase. À mon avis, personne n'a compris tellement tu l'as marronné.
J'ai cité.
C'est la chanson de François Mitterrand, ça, non?
Et bon. donc c'est plus d'un point de vue marketing, c'est quand même super intéressant pour Konami.
Alors néanmoins, juste pour parler du côté Microsoft, on voit qu'aujourd'hui le jeu online sur PES est quand même plus vivant, mais ça c'est grâce à la structure Xbox Live sur Xbox 360 que sur PlayStation 2
et sur PC.
Et sur PC, oui, c'est vrai.
Sur PC, ça cartonne. Et les adaptations, les dernières versions ont enfin été moins bâclées que d'habitude, avec une interface où on peut presque discuter avec son adversaire. Tu peux mettre des phrases préenregistrées pour l'insulter après un but. Non, ça a été vachement bien fait, ça. Et la version d'avant était pas catastrophique, mais tu sentais que les mecs, ils y arrivaient pas. La nouvelle, c'est mieux, mais perfectible. Mais la prochaine, je pense que ça va être juste n'importe quoi, parce que même sur PC, la licence est en train d'exploser. Faut le savoir, parce que aussi le jeu en ligne et les pads PS2, ça marche très bien sur PC.
C'est marrant, j'allais dire la même chose avec la Xbox, j'allais dire tu peux jouer en ligne, quoi. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut t'acheter un adaptateur.
Exact.
Des manettes.
Sur PC, c'est pareil. Sur PC, c'est pareil.
Moi, j'aurais trois points. J'aimerais qu'on évoque avant de conclure ce podcast. C'est le premier point, c'est vraiment au niveau du ressenti. On l'a déjà un petit peu dit, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. C'est vraiment la physique de la balle qui est ultra importante, qui a vraiment fait toute la différence au-delà même de la manière dont on la dirige. C'est le poids de la balle, et c'est une chose sur laquelle les équipes de Cibas travaillent. Édition après édition, on l'a vu hein, lorsqu'on a pu se rendre chez eux à Tokyo, ils ont des bouquins énormes de physique. C'est-à-dire que ça ne rigole pas, et c'est qu'en plus ils ont ouvert un studio de motion capture directement dans les studios de KCO, qui leur permet à chaque fois de réimplémenter des nouveaux mouvements dès qu'ils le souhaitent, améliorer, peaufiner.
Juste un truc du noob que je suis, c'est quand j'en bats, moi alors vous c'est pas arrivé depuis 1912 je crois,
à peu près.
Mais j'ai battu des gens qui sont bien meilleurs que moi à jeu, et la physique de la balle, elle est tellement bien que pour moi elle est mystique. Vraiment, c'est à dire qu'il y a des gens qui sont super forts, qui deviennent fous, parce que, et Angèle en connaît d'ailleurs, c'est les mecs, ils arrivent, je vais gagner un match 2-0 et les statistiques sont à pleurer de rire. C'est occasion de tir 2 pour moi, l'autre en face 18,
ouais, mais c'est toi qui gagne,
et c'est comme le vrai foot. Ouais. Et le mec, il a repeint les cages avec des petites traces de balles tout le long des poteaux, et jamais il a réussi à le mettre dedans. Alors que mon goal, il était aux fraises à chaque fois, ma défense avait planté des choux, il n'y avait plus personne. Mais c'est comme au vrai football, il se passe des trucs parfois, tu comprends pas.
Et je dirais même, c'est comme au vrai football, contrairement à FIFA, c'est-à-dire qu'on peut avoir des bêtes noires, c'est-à-dire qu'on peut être un joueur exceptionnel,
ouais, ça durait clairement
moins bon, identifié comme moins bon, mais parce que son style de jeu en face correspond pas du tout à son propre jeu.
Moi, je suis la bête noire de tout le monde. Enfin bon.
Je sais pas si t'es d'accord avec Trace, mais je
non,
crois
absolument
que,
pas. Est-ce que dit Angèle est totalement faux, évidemment.
Je m'inscris en faux, n'est-ce pas? Alors, on en a parlé un petit peu avant. J'étais pas d'accord avec toi, et j'ai décidé de garder cet argument pour le podcast. Alors, monsieur Julien Chiez, ouais, je te rappellerai qu'à un moment, je t'ai mis 11-0.
On s'est tous pris
dans la gueule. Attends, je vais pas dire le contraire.
Franchement, je m'en rappelle pas. Comme élève bouge, ça veut dire que je parle.
Et donc, je n'ai pas fini. Va te faire mettre. Alors maintenant, je vais te dire l'autre argument. Qui a été champion de France de
PES? Le hooliganisme, tu vois. C'est ton côté hooligan qui ressort. C'est ton côté hooligan qui ressort. Et ça, c'est moche.
C'est sûr.
Et ça,
c'est moche. Soit monsieur. J'ai été champion de France de PES.
Non, ça, monsieur, vous êtes animateur.
J'ai été champion.
Alors calmez-vous.
J'ai été animateur, champion de France de PES. Tu n'as rien été, tu n'as aucun titre. Donc c'est beau de se la flamber.
J'ai pas
fait un beau match.
J'ai pas voulu y aller.
Champagne, très bien.
Championnat de France.
Tu étais là, monsieur.
Je participe pas à la deuxième division européenne, monsieur.
Quart de finale. Tu n'es pas allé plus loin. En vous remerciant.
Non, alors tu vas couper la parole.
Tu vas couper
la parole. Tu vas couper la parole. Donc je menais 1-11-0 à 60 minutes.
Merci. Alors, maintenant qu'on n'entend plus Angèle, j'aimerais parler des deux derniers sujets. C'est vraiment la PES League, parce que la PES League, c'est vraiment ça qui est énorme, ça explose. On le voit sur Game One, il y a carrément même une émission qui lui est dédiée de manière très récurrente, animée d'ailleurs par Plume, qu'on salue.
Mister Plume.
Et franchement, Traz ou Julo, c'est vraiment le buzz énorme en ce moment autour de la PES League. Tout le monde a envie d'y participer. Alors, Julo avait envie de parler de ça, visiblement non.
Non, j'ai pas envie de parler de ça, en fait. Je voulais revenir en arrière, mais non, c'est trop tard.
PES League, franchement, quelqu'un, parce que ça, c'est vraiment important. La PES League, c'est quelque chose qui, on n'avait jamais, au début, c'est vraiment partie des joueurs, en plus, la PES League.
Alors, moi, Angel, je te redonne la parole.
Allez,
alors, vas-y. La PES League, on en revient. Bah, je suis désolé, je connais bien le sujet. La PES League, tu vois, c'est marrant. On retrouve encore le phénomène, enfin, ce qui me fait dire que PES va au-delà du jeu. Dans la PES League, on retrouve plein de gens qui, finalement, ne sont pas forcément joueurs. C'est des gens qui ont une PS2 et PES. Les autres jeux, ils en ont absolument rien à foutre. Mais vraiment rien à foutre.
Rien à foutre.
C'est juste des mecs qui aiment le foot, mais qui aiment le foot pas juste comme ça, tu vois. C'est des mecs qui achètent la presse, qui s'intéressent vraiment au foot, qui regardent les matchs le week-end, qui vont au stade et qui ont envie de se faire une soirée entre copains. et qui s'y connaissent vraiment à mort, quoi. C'est pas le footo du dimanche qui s'intéresse au football uniquement pendant la période de Coupe du Monde parce qu'il y a l'équipe de France qui joue, quoi.
Ouais. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. J'écoutais pas du tout ce que tu disais. Hein, c'est pas ça. On va la faire claire. Ce que tu dis ne m'intéresse pas. Mais la PES League, je kiffe. Champion de France de football, PES. Bon, pour finir, j'aurais envie qu'on parle un petit peu du prochain.
J'avais une vraie question en tant que mec qui était ex d'un autre magazine. Je voulais justement demander à Traz, quand il s'occupait d'un autre magazine.
Tu veux dire J-Pan?
Voilà. combien de temps passaient tes équipes sur PES à une certaine époque?
Beaucoup de temps.
Non, mais enfin bon, alors le temps qu'on passait, on le passait dans son bureau, hein. Si tu vois ce que je veux dire.
J'y venais parce que je trouve les gens ne savent pas assez que effectivement des fois on entendait des grands cris, etc. C'est tout, tu crois que tout le monde est en train de bosser. Non, ils étaient tous super concentrés dans le bureau de Traz à faire des compètes avec genre non, c'est moi le prochain.
Il y avait un fichier Excel, c'est... monsieur. Oui. Un fichier Excel.
Je tenais un fichier
de plusieurs
Excel.
Kilomètres.
Alors là, je sais plus où il est par contre,
mais c'est faut le retrouver.
Mais celui-là, il est collector. Donc voilà, je voulais juste préciser ça historiquement.
Traz a brisé trois manettes devant moi. Je vous jure que c'est vrai. Non, il a brisé trois manettes devant moi.
Moi.
Mais Traz, il a pas brisé que des manettes. Hein. Je pense que là.
Il a aussi brisé un mur, c'est vrai.
c'est un coup de pied.
C'est vrai. Quand même
pas un coup de pied avec un S, avec un coup de pied.
On est obligé de mettre des posters devant pour pas que les gens le sachent.
Bah, c'était du football, hein, tu sais.
Oui, c'est ça, du football mural.
Voilà, je te rends la parole, Julien. À toi.
Donc bon, pour conclure ce podcast, on a vu que il y a quelques temps, quelques jours, quelques semaines, il y a eu l'annonce du prochain PES qui s'appellera en Europe PES 2008. Traz, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites mine de rien, même si on n'a pas vu encore grand chose à part quelques photos, mais apparemment un gros travail une fois de plus sur l'intelligence artificielle.
Voilà, c'est surtout là-dessus apparemment qu'ils ont une fois de plus misé, hein, et puis ils ont fait un peu la promo là-dessus tout simplement.
Ils ont un système qui permet à l'équipe en fait de s'adapter au type de jeu de l'adversaire.
Non, à toi-même, toi en tant que joueur apparemment.
Donc ta propre équipe.
Voilà, exactement. Ouais. Apparemment ta propre équipe, enfin l'IA s'adapte à tes compétences en fait, aux compétences du joueur, sa façon de jouer, aussi bien en attaque qu'en défense. Donc l'IA serait là pour justement compléter les lacunes, ouais. Voilà, pallier aux lacunes du joueur s'il fait mal des choses.
J'espère qu'elle est très très bien.
Il faut voir ça.
D'accord. On voit aussi toujours que l'équipe de PES a toujours une courbe de progression assez étonnante, tout simplement parce que à l'époque, maintenant ce n'est plus le cas, mais ils sortaient 3 ISS, PES, Winning Eleven, comme vous voulez les appeler, par an. Il y avait la version japonaise une première fois, la version européenne, donc PES, et puis ils ressortaient une autre version qu'ils appelaient Final, généralement, au Japon, et à chaque fois, ces trois versions dans la même année étaient différentes. Par petites touches, hein, simple petite touche.
Ouais. Mais justement, c'est ce qu'attendent aussi les gros spécialistes des PES, c'est d'avoir à chaque fois des petites remises à niveau du jeu systématique.
Le remaniement de gameplay se fait toujours dans le détail, hein, finalement.
C'est vrai que ça vaut pas forcément toujours le coup de les acheter toutes, mais ouais, en tout cas, les collectionneurs aiment ça, quoi.
Cela dit, avec la nouvelle version qui va arriver donc sur une nouvelle plateforme, comme ça avait été le cas déjà avec la PS2, on risque, si tu veux, ils vont devoir vraiment retravailler pas mal de choses. Mm-hmm. Ce qui fait que a priori il serait à mon avis un petit peu décevant au niveau du gameplay et tout, quoi.
Bah généralement la dernière version des consoles précédentes est meilleure que la première.
Voilà,
des
on se rappelle bien que le premier sur PS2
qui est sorti si je dis pas de bêtises en 2001.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Et bien on continuait nous et beaucoup d'autres à jouer à la dernière version sur PS1. Voilà. Donc ça me fait un petit peu peur. Cela dit, le jeu devrait être très bien après quelques versions. Voilà.
En tout cas, ils ont arrêté de les appeler PES6, PES machin, bidule.
Ouais, c'est PES 2.
Là, on arrive à 2008.
C'est sûr que d'un point de vue machin, enfin au bout d'un moment, 10, 12, 13, 14, il fallait bien trouver une solution. Ouais, c'est vraiment, ça fait un peu.
Dernière chose, tour de table très rapide. Angel, qu'est-ce que t'attendrais toi? J'aimerais dire, tu bosses pour PES. Le truc pour l'instant qui manque à la saga PES pour être encore plus parfait, plus proche du vrai football.
Franchement, j'attends plus rien. Voilà ce qu'ils font. Alors moi, je suis content. Autant je suis déçu de l'aspect graphique de ce qui est annoncé, parce que, enfin, j'attends de plus beaux graphismes, ce qui visiblement va pas trop être le cas. Mais par contre, l'IA adaptative, c'est un truc parce que comme on l'avait déjà dit d'ailleurs dans un précédent podcast sur la technique passe pas forcément par le joli ou le fluide, mais ça peut être aussi et surtout sur l'IA.
D'accord. Traz?
Ben moi, rien de plus que ce qu'a dit Angèle, hein, tout simplement des améliorations à tous les niveaux, et puis voilà, c'est ce qui fait son charme, c'est ce qu'on attend à chaque fois, quoi. Mais peut-être plus au niveau aussi des conditions climatiques qui rendent la pelouse un peu plus crado, ou Et les maillots, pareil aussi. Enfin, qu'on sente plus les effets météo et des tacles aussi, par exemple, sur les joueurs, qu'on les sente vraiment. Qu'on sorte plus la lourdeur du terrain, par exemple, du ballon. Plus ça. Parce que le reste, c'est tellement parfait que je vois pas trop ce qu'ils peuvent. Enfin, si, ils peuvent toujours s'améliorer, évidemment. C'est ce qu'on a
compris. Ils d'ailleurs.
Un peu moins, un peu moins d'automatisme, pour toi, peut-être, de schéma de jeu automatisé, quoi. Mm-hmm. Peut-être un peu plus de surprise dans
pour
les.
Toi.
Non, mais c'est vrai que t'as des. Non, mais t'as souvent, quand tu joues souvent à un PES, à un nouveau PES, tu retrouves des bugs qui reviennent souvent. Enfin, pas des bugs, mais disons des bugs exploitables. Des trucs que tu vas. Des phases de jeu que tu vas reproduire à l'infini.
Le 1-2, le 1-2.
Bah, par exemple, il y a eu un épisode, le 1-2, c'était le killer, quoi. Quand tu
sais, effectivement.
Il y a toujours un peu un truc comme ça. Mais quelque part, plus ils avancent dans leur formule. Voilà. Plus ils avancent dans leur formule, moins il y a de choses comme ça et plus le jeu est surprenant.
Comme dans le trou dans la défense.
Voilà. Donc en fait, comme disait Angèle, moi c'est pareil, un keep up de good work. Voilà. Simplement que ça continue, qu'ils continuent à faire des superbes animations, etc.
Moi j'aurais plein de trucs à dire, le cas, parce que tu vas.
Non, moi j'ai juste
gagné.
Non, on va gagner. Alors, monsieur Sibas, est-ce qu'on pourrait avoir un cheat mode pour les mauvais? Voilà. Non, et surtout, la version PC, j'aimerais vraiment qu'ils regardent un peu ce qui se fait sur les jeux PC pour bien gérer le mode en ligne, le chat, la communication vocale. Pour l'instant, c'est hyper limité. Je pense qu'ils vont le faire. Et puis, surtout, gérer le truc le plus pénible sur ce genre de titre, c'est les mecs qui se déconnectent alors qu'ils sont en train de perdre, les cheats.
Il faudrait les obliger à rester.
Les équipes de Superman sur le terrain. Tu vois, parce que les cheats sont faciles à faire entre guillemets sur PC et qu'effectivement il y a un gros, à partir du moment où tu touches au jeu en ligne, t'es obligé de verrouiller ça. C'est un gros boulot, c'est super chiant, mais faut le faire, quoi.
D'accord. Bah moi personnellement, ce serait presque limite un truc à enlever ou en tout cas à bien améliorer. Dans ce cas, il faut vraiment s'inspirer de FIFA. C'est les commentaires qui restent quand même une énorme lacune. Ils sont juste à chier.
Les commentaires japonais.
Mais ouais, et c'est des DVD maintenant, c'est du Blu-ray.
Exactement.
PS3, etc. Ils peuvent mettre les commentaires japonais.
Et j'y pensais même pas parce que c'est le premier truc que je vire.
Bah voilà. Ben ouais, mais moi j'aimerais bien ne pas avoir les virés parce que par exemple dans FIFA, je trouve que les commentaires apportent quelque chose.
Tout à fait.
Donc c'est dommage qu'ils soient pas bons. Maintenant on s'habitue à les virer, mais si on pouvait les garder vu que c'est payé, et ben ça pourrait être bien. Donc arrêtez avec des commentaires à la con. Je rajouterais aussi un peu plus d'ambiance dans le public et dans la foule, parce que désolé, mais en Europe les matchs sont parfois un peu plus houleux que complètement statique et que ce serait
des jets de cailloux.
Alors,
des
jets de cailloux, mais parfois dans ton sens. Et d'ailleurs,
des chants de supporters.
Sibas avait expliqué quand il avait fait je sais plus quelle tournée de promo pour le jeu, il avait assisté donc à des vrais matchs européens et qu'il a été resté sur le cul par rapport aux ambiances et qu'il allait essayer de bosser là-dessus.
Bien sûr.
Maintenant, on va voir.
Parce que franchement, on est complètement d'accord au niveau du gameplay. Ils sont vraiment déjà à un très très bon niveau. On pourra toujours améliorer, mais là, je pense pas que ce soit à nous de leur dire quoi faire. J'ai l'impression qu'ils s'y connaissent bien. Mais au niveau de l'ambiance, FIFA reste mine de rien encore meilleur. Moi, quand j'entends, quand je joue au Parc des Princes dans FIFA et que j'entends les chants de supporters, même si personnellement je suis pour l'OM, ça me fait kiffer. Je veux jouer dans les autres stades et entendre les supporters qui me poussent. C'est ça l'ambiance du football aussi. C'est ça ce que j'aime. Et dernier point, plus sur le gameplay, j'aimerais que on soit, quand on se met en manuel, vraiment en manuel, parce qu'il y a encore parfois les joueurs qui restent sur des lignes, un petit peu sur des rails, et ça c'est parfois un peu frustrant. Donc laisser encore un peu plus de liberté aux joueurs, ce sera peut-être plus dur, on devra peut-être s'entraîner encore plus, mais ça permettra à FIFA, à PES, qu'est-ce que je raconte, de devenir encore plus proche de la simulation ultime, le cacto gameux comme on l'aime.
Cacto
gameux. Voilà. Donc en tout cas, ça c'était un petit peu tout ce qu'on pouvait dire nous en tant que passionnés.
Si, j'ai un dernier truc à rajouter, et non, c'est juste pour parler chiffres. Ouais. Donc il faut savoir que PES se retrouve tous les ans dans le top des produits culturels les plus vendus en France.
Carrément.
C'est-à-dire produits culturels, ça inclut DVD, bouquins, c'est-à-dire produits culturels.
En 2006, c'était numéro 1 d'ailleurs.
Et bon, c'est pas, enfin, les chiffres de vente ont jamais prouvé la qualité d'un truc, mais quand même.
Comme on aime, en tout cas, ça fait plaisir. Hein.
Voilà. Non mais enfin, pour un jeu vidéo, c'est quand même énorme. Quoi. Ça arrive jamais. Non mais c'est-à-dire dans les produits culturels, il y a GTA, dans les jeux vidéo, il y a GTA et PES quoi, qui arrive.
Qui était devant Da Vinci Code. Donc
voilà, exactement. Harry Potter et tout ça quoi.
Enfin, c'est devenu un jeu mainstream.
Exactement. Donc ce sont des phénomènes de mode.
De société, moi je dirais plutôt.
De société, pardon.
C'est pas de
rue. Oui, de société.
Par contre, le phénomène de il y a des gens qui souffrent parce que dans tous les gens qui achètent ce jeu,
fatigué.
Combien il y en a qui mettent vraiment des buts? Parce que moi j'ai un pote qui l'a acheté, qui adore ce jeu et qui m'en parle et qui n'aime pas. Enfin, oui, il joue qu'à ça. Hein.
Écoute, pour 100 euros de l'heure, je peux lui apprendre des trucs.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Y a pas de
souci. Je pense qu'il y a un business à monter. Parce
moi,
que
moi je me demande combien de ménages à briser PES.
Moins
ça doit être aussi.
Ah oui.
Ça doit être pas mal aussi.
Alors, juste la dernière anecdote, après on arrête, après on vous lâche, promis. Mais maintenant, quand on fait. Dernièrement, j'ai fait une émission, on parlait qu'avec des nanas. Et elle parlait pas de jeux vidéo, machin. Elle disait PES, c'est la mort du couple.
Voilà.
À chaque fois, elle sortait le truc, c'était PES. Elles connaissent pas du tout, elles savent juste que c'est un jeu de fous. Mais PES, elles connaissent le nom. Bah voilà, c'est rentré dans les mœurs. Maintenant, les nanas flippent. Plus des jeux vidéo, mais de PES, tout simplement. Donc voilà, bah si elles flippent, tant mieux. Donc comme ça, ça
le football et le sport roi.
Voilà.
Ça, on est complètement d'accord. La Formule 1, franchement.
Ouais, mais pas, le Real n'est pas forcément le club roi sur la scène internationale, si tu vois ce que je veux dire.
Écoute, il y a un certain championnat qui a été gagné brillamment, alors que l'OM, il en est où? Enfin, j'en sais rien.
Bah, deuxième.
Bref, je crois que c'est un autre sujet qui voilà n'intéresse pas les auditeurs.
Voilà. Fini. Le record de vente de cet été, c'est Ribéry, un Marseillais. On vous dit à la semaine prochaine, mercredi, pour un nouveau podcast sur gameblog.fr. On vous embrasse, on vous kiffe, on vous adore. À bientôt. Ciao, ciao.
Salut.
Ciao, ciao.
Cheers.